foutez-moi les immigrés dehors, vous donnez du travail aux Français. Et puis la posture. J'en parle d'autant plus que quand j'étais jeune conseiller général dans le Haut-Rhin, j'étais dans la jouissance de la posture. C'est-à-dire j'étais le chef de l'opposition et je cherchais les arguments pour m'opposer, non pas pour parler vrai. Aujourd'hui, il y a eu un vrai retournement, pour des raisons sur lesquelles on pourrait venir dans le débat, personnel, de regard sur ma propre action avec l'équipe municipale et les collaborateurs, parce qu'évidemment, une démocratie d'élaboration et d'implication, ce n'est pas qu'un élu, c'est l'ensemble des élus, c'est les collaborateurs, des administrateurs jusqu'au bas de l'échelle, entre guillemets, et c'est aussi, bien sûr, essentiellement les citoyens qui s'engagent. Donc on est là dans une sorte d'entre-deux, le vieux n'est pas mort et le neuf n'est pas né. Et dans cet entre-deux, nous avons des équipes municipales, des élus locaux, des citoyens engagés, chez nous on les appelle les agoracteurs, qui considèrent qu'il faut travailler une transition entre une démocratie hypertrophiée par l'élection, l'aspect partisan, passif, providentiel, vers ce que j'appelle dans mon livre, et si enfin on prenait les électeurs au sérieux, la démocratie construction, la démocratie tirée construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est exigeante. J'aime bien ce mot. Parce que tous ceux, les collègues parfois qui me disent « Spiegel, il fait de la démocratie participative », dans leur mythe, c'est soit les barricades, soit la démagogie. Et en réalité, il n'y a pas plus exigeant que de permettre à chacun de rentrer dans une séquence démocratique d'élaboration collective. Il n'y a pas plus compliqué. D'ailleurs, la démocratie ne supporte pas l'impréparation. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc, cette démocratie exigeante, pour trois raisons, elle est d'abord interactive. C'est des rendez-vous réguliers, construits entre les représentants que nous sommes à un moment donné de notre vie et les représentés. C'est aussi une démocratie que je veux lente, c'est-à-dire qui accepte que la vie est complexe, que pour prendre des décisions, il faut de l'altérité et qu'on travaille pour l'autre, y compris celui qui n'est pas encore né, et que c'est la notion de durabilité. Il faut du temps, la maturation. J'aime à dire que la démocratie, c'est un cheminement qui nécessite de la maturation partagée. Lente, interactive, édifiante. Là, vous voyez un peu la conception d'Emmanuel Mounier ou d'autres, ou Lévinas. Arrêtons de dévisager pour envisager ensemble. Édifiante, ça veut dire qu'on doit être dans toute situation, et c'est là la question de la transcendance en politique, passer du jeu au nous, du particulier au général et de l'immédiat à long terme. Et quand je vois le débat sur Fessenheim, par exemple, près de chez moi, c'est le maire, il défend son truc, son biftec, c'est 3 millions de taxes professionnelles, mais pas un discours sur les générations à venir, sur la dangerosité, c'est juste à pleurer. Et donc cette dimension du jeu au nous, c'est la responsabilité de nous autres. C'est comment passer du jeu que j'affirme, parce que la démocratie, elle est inclusive, j'affirme un jeu. D'ailleurs, lorsqu'on est dans une séquence démocratique, je demande toujours à ce qu'on ne dise pas « on », parce que le « on » est d'une irresponsabilité absolue, mais je dis « je m'affirme dans ce que je dis ». Et j'essaie de travailler pour passer au « nous », c'est-à-dire du singulier à l'universel, du particulier au général. Quand on a parlé de l'aménagement du temps d'enfants, chacun, les parents venaient avec leurs enfants, leurs préoccupations. Elles sont importantes, mais ce qui est plus important encore, c'est la place de l'enfant dans la ville. La dimension universelle, l'enfant dans la ville, en tant que citoyen en devenir. Et donc, cette dimension d'édification me paraît importante, passer du jeu au nous, particulier général, et de l'immédiat en long terme. Ça veut dire que le rôle des élus n'est pas de décider, pendant tout le mandat, à partir d'un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, mais ils ont cette grande chance de grandir personnellement et collectivement pour non pas faire pour les habitants, d'une manière condescendante, mais avec les habitants. Non pas de faire dans un face-à-face infantilisant, stérile, du style des réunions de quartier classiques, je sais que vous travaillez sur ce sujet, mais classique, je veux dire, le magicien qui arrive, fournisseur, et les habitants clients. Est-ce que c'est ça l'idée qu'on se fait de la responsabilité dans l'espace public? Donc, face-à-face, et ensuite, sortir du tout ou rien, qui ne fonctionne pas dans nos vies personnelles, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais vu que ça fonctionnait tout ou rien, ni avec mon épouse, ni avec mes enfants, ni avec mes petits-enfants, c'est toujours le plus ou moins. C'est ce que j'appelle le compromis dynamique que je ne compare pas au consensus mou qui ne sert que les notables et le statu quo. Je fais donc bien une différence entre le consensus mou, voilà, que vous appelez comme vous voulez actuellement en politique, on dépasse les clivages, mais pour faire quoi? Moi, je veux qu'on puisse être en capacité de construire des compromis dynamiques à partir de l'intelligence collective. Et ça, c'est le sens de la démocratie construction. J'en parle aujourd'hui avec un peu de recul, parce qu'il faut théoriser les pratiques. Comment on a Comment on a avancé sur ça? D'abord, c'est un travail de 20 ans. C'est par essai-erreur, mais avec une volonté politique forte. Et je pense qu'il y a deux conditions dans toute collectivité. Pour changer de paradigme démocratique, il faut une volonté politique, mais sans faille, sans faiblesse. C'est pour ça que je crois aussi qu'il n'y a pas d'opposition entre un leadership et la participation. À condition que le leader soit pas un chef au-dessus, mais parmi, mais qui pousse, qui a envie d'y aller. Je dis, attendez, là, il faut donner du sens, il faut associer les habitants, n'oubliez pas ça, ne retombons pas dans les habitudes, dans les routines des élus qui fonctionnent, mais qui donnent du sens, qui ont envie d'une transformation. Parce que pour moi, la démocratie n'a de sens que s'il y a une transformation, à la fois personnelle et collective. Et donc, on est dans une démarche d'élaboration collective avec 6 balises. La première, c'est presque des prérequis, j'ai presque honte d'en parler. On ne peut pas faire la participation si on est uberois. Ça pose la question de l'éthique de l'agir public. Et la première chose, c'est d'assumer bien, normalement, la représentation communale que nous assumons. C'est-à-dire, mais faut-il le dire, de l'intégrité. Ça veut dire le parler vrai, et ça veut dire la congruence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Si je me balade un peu partout, je peux vous dire que lorsque j'arrêterai la politique dans 3 ans, ou l'engagement de la vie publique, pour dire pas la politique, tellement ça pose problème, eh bien, je peux dire qu'avec nos équipes successives, on a toujours dit ce qu'on allait faire, on a toujours fait ce qu'on a dit, avec la médiation de la construction collective des programmes et des projets. Ça, c'est fondamental. Ensuite, dans l'état d'esprit qu'on doit développer, il y a le rapport au pouvoir. Et ça, c'est un travail important. Quand je disais que j'étais le jeune roquet en 86, conseiller régional, cantonal, maire après, ben, j'ai les chevilles qui enflaient, ça me permet de marcher en équilibre, mais quand même. Mais comment travailler un rapport humble au pouvoir? C'est un vrai sujet. Et je pense qu'il faut rester homme plutôt que notable. C'est ce que je vois assaillant, quoi, dans les équipes qui ne se la jouent pas. Être homme plutôt que notable. Et il y a des signes sur lesquels j'ai complètement changé de regard et de pratique. Par exemple, pendant longtemps, sans doute pour me faire mousser, puisque je trouve qu'à la frontière de la spiritualité et la psychanalyse, je faisais des grands vœux du maire. Chez nous, c'est une tradition en Alsace. J'avais une grande salle, et plus il y avait de monde, il y avait 1000 personnes, plus j'étais content. Il n'y a que ma femme qui disait... ton truc, c'est pour te faire plaisir. Elle avait tellement raison, et souvent raison d'ailleurs. Et en fait, on fait ça, alors qu'en réalité, la moitié des gens viennent pour bouffer, non, rien à cirer de ce que vous pouvez dire. Ils sont déjà aux partances pour les pots quand vous terminez votre discours. J'ai passé des heures à le faire, et au fond, je me dis, mais attends, si tu fais ça, parce qu'on a tellement l'occasion de voir les habitants à d'autres moments, c'est pour dire que ta ville va bien et que tu es un bon maire, en gros. Donc voilà, exit les vœux du maire, et on fait les vœux de Kingersheim, à l'extérieur, pour permettre l'accès du plus grand nombre. Un spectacle culturel, et puis 5 minutes de discours pour parler pas de la ville, mais du pacte civique, par exemple, dont nous sommes co-partenaires. Et donc, plus de vœux du maire, les vœux de Kingersheim, les gens se souhaitent la bonne année de plein pied, c'est la vie normale. Par exemple, nous ne faisons plus de séances d'inauguration, avec des coupés de ruban, parce que je trouve ça d'un tel ridicule, avec le sénateur du coin qui n'est absolument pour rien, mais qui vient se présenter pour les élections. Le député, c'est pareil, il n'est pour rien, parce qu'il n'y a aucune, sauf la réserve parlementaire, d'ailleurs, ça interroge de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette réserve. Le conseiller régional vient pour se placer avec 7% de subvention, et le conseiller départemental, entre 20 et 25%, ça dépend des conseils généraux. Et puis, vous avez les braves élus, local ou communautaire, qui est là juste pour dire, ben, on a quand même travaillé le sujet. Donc, plus de coupés de ruban, et on fait des temps d'appropriation par les habitants. Autre élément important, dans la maison de la citoyenneté, la notion de transparence qui vous porte. D'ailleurs, la transparence est la conséquence, plutôt qu'un a priori, de la participation. Si vous faites, sur tous les sujets, participer les habitants, vous êtes forcément dans la transparence. Mais il y a une autre transparence qui me paraît importante et qui correspond à la quête d'égalité, profondément d'égalité. Quand nous remplaçons le personnel communal qui part en vacances, il y a des jeunes qui sont candidats. En général, 100 pour 30 postes. Eh bien, on le fait par tirage au sort, à la maison de la citoyenneté. Et après le tirage au sort, ils sont reçus par un jury pour mesurer le degré de motivation, et à la fois le mérite, mais aussi la chance de chacun. J'en ai des frissons quand j'en parle, parce que j'ai vu des pères pleurer. Des pères d'enfants qui s'appellent Mohamed, qui a autant de chance que le Joseph, je dis, c'est mon prénom, ou que Philibert, c'est mon deuxième prénom. Autant de chance que les gens bien nés. Et ça, c'est important que chaque habitant sache que ce n'est pas du clientélisme, ce n'est pas l'opacité, ce n'est pas le maire qui décide. On donne le tirage au sort, et ça se fait de manière solennelle, avec une introduction, est-ce que vous êtes prêt à partager le travail? Si vous êtes prêt à partager, il y a 30 mi-temps possible, vous n'êtes pas prêt à partager. Il y a 15, tous les jeunes me disent, on est prêt avec le tirage au sort et on est d'accord de partager le temps de travail. C'est quand même magnifique. Parfois, on a à apprendre des jeunes. Voilà, donc ça, c'est l'idée de l'éthique de l'action publique. C'est quelque chose qui donne un rapport différent à la politique. Ensuite, la deuxième chose, nous avons créé un lieu dédié aux pratiques démocratiques. Parce que la démocratie est vivante que si on la pratique. Et donc ce lieu s'appelle la Maison de la Citoyenneté. Nous l'avons construit en 2006. J'aime à dire que ce lieu est à la démocratie ce que la forge est au forgeron. C'est le lieu de pratique. C'est en pratiquant la démocratie qu'on devient démocrate. Et ce lieu, c'est le lieu de toutes les ressources démocratiques et donc de toutes les ressources, en gros résumées en trois collèges qu'on trouvera dans toutes les instances. Le collège des élus, qui seront de plein pied et que leur voix compte pas plus que celle du collège des habitants, et le collège des organisations, experts, etc. En gros, il faut toutes les ressources. Donc pour toutes les séquences, vous avez de plein pied, ça c'est une des originalités fortes, les trois ressources qui me paraissent essentielles. Vous avez les trois fonctions de la démocratie qui sont épanouies dans cette maison. Celle de la décision, c'est le lieu du conseil municipal, mais la décision n'a de sens que si elle s'appuie sur la phase décisive, et je n'oppose pas la phase décisive et la phase décisionnelle, d'une part à la délibération, c'est-à-dire apprendre à débattre, retrouver le sens de l'agora, du forum romain, et puis entre les deux, ce qui s'oublie carrément, mis à part Saillant, Grenoble et d'autres communes, la capacité de co-construire ensemble. Cette dimension d'élaboration collective qui est la plus difficile et qui singulièrement manque de notre pays. Vous, c'est, je crois que les groupes projets, chez nous, c'est les conseils participatifs, depuis 10, 15 ans. Ça suppose là, avec des règles démocratiques, d'aller au fond du sujet, moi j'en parlerai tout à l'heure. Donc, trois, toutes les fonctions, toutes les ressources démocratiques, et j'aime à dire les trois cultures démocratiques qui nous habitent et qui existent entre nous. C'est la culture de l'utopie, par extension du rêve, de la vision, de ce qui est à advenir, parce que chacun porte ça pour soi, et donc on peut le porter pour le collectif. Quelle est l'utopie d'un monde meilleur? Moi, ma ville, l'utopie, c'est une ville fraternelle. C'est mon utopie, on restera, mais pour moi, c'est important. C'est l'objectif, c'est la tension qui me porte. Et puis, il faut l'autre culture que nous portons, c'est la culture de la résistance, et donc de l'indignation, de la critique, du contre-pouvoir, tellement importante. Puis enfin, il y a la culture de la régulation, de l'engagement, du principe de réalité. Et je dis que ce pays ne fonctionne pas parce qu'on est un pays de spécialistes. Aux uns, l'utopie, aux autres, l'indignation, au dernier, l'engagement. Et donc, ce qui fait qu'on s'aime de s'ignorer les uns les autres. Et cette maison, pour moi, chaque fois, dans ma tête, évidemment, c'est théorique, mais c'est l'idée qu'on, dans le consentement progressif, c'est ce qu'on travaille. Il y a des gens qui viennent avec plein de colère, d'autres qui viennent avec plein d'utopie, et puis l'élu, il scoltine le principe de réalité, le budget. Vous avez des discussions sur les budgets. D'ailleurs, comment articuler intelligemment les budgets avec les projets qui émergent, c'est une vraie question sur la démocratie de participation. Et donc, on voit des gens qui sont dans l'utopie, qui font de beaux bouquins, de beaux discours, mais qui ne s'engageront pas. Et vous avez des gens qui prônent l'indignation, mais qui diront « je n'irai jamais me coltiner le réel ». Et puis, vous avez ceux qui sont en place, souvent des professionnels de la politique, qui, de cumul en cumul, oublient progressivement tout début d'utopie et tout début de résistance. Ce qui fait que vous avez des pros dans l'entre-soi, des spécialistes de l'utopie et des gens qui ne font que gueuler. Et en réalité, la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est à la fois l'utopie, c'est l'indignation, et c'est l'engagement. C'est un peu le sens de cette maison de la citoyenneté. D'ailleurs, les trois espaces résument ces trois cultures. Vous avez le parvis Jean Moulin, par lequel on arrive. Jean Moulin, le résistant, le préfet, qui a résisté, même sous la torture, à la barbarie. Vous avez l'espace Jean Jaurès, tué parce qu'il croyait à la paix, mais parce que c'est l'utopie d'un monde meilleur. Et vous avez l'agora Pierre Mendès France, qui était un grand homme d'État. La preuve, il a duré 7 mois. Donc, on a, en gros... trois personnages qui traduisent ces trois cultures-là. Ça, c'est la deuxième balise. La troisième, c'est qu'on est sur un alphabet démocratique d'une rare pauvreté. Vous avez la lettre E pour l'élection, vous avez la lettre D pour décider d'en haut, et vous avez la lettre C pour conquête de pouvoir. En gros, je caricature, sans doute. Mais il faut enrichir cet alphabet démocratique et donc travailler à une grammaire aboutie. Et pour nous, toute séquence démocratique accompagne désormais un projet. Il n'y a pas de projet qui ne soit pas légitimé par une séquence démocratique qui développe les 5 tenants d'une grammaire aboutie. La première, se mettre à l'écoute au début et à la fin du processus. C'est l'information, deuxièmement, donner du sens. Troisièmement, c'est débattre. Il n'y a pas de séquence qui démarre sans un débat public. Là, on met sur la table les désaccords pour ensuite construire des accords. ensuite élaborer ensemble, souvent par les conseils participatifs qu'on a créés à Kingersheim, et enfin s'engager. Quand je dis s'engager, c'est que je ne crois plus à un monde qui se transforme en profondeur sans l'engagement des politiques, sans l'engagement des organisations et sans l'engagement des citoyens. Il n'y a pas de transition énergétique et écologique sans la mobilisation et la transformation personnelle et collective. Mais il n'y a pas un politique qui vous dira ça, parce qu'il faut flatter. Mais je pense profondément, si on veut faire de la sobriété sur le scénario négawatt, la sobriété, c'est le comportement des uns et des autres. L'efficacité énergétique, c'est tout le monde. Bâtiment public, privé, c'est l'efficacité du stockage, enfin, bref de choses. Et puis, la substitution, le mix énergétique. Donc, l'idée, c'est que, quand même, c'est tout ça qu'il faut développer. Et c'est cette grammaire qu'on trouve dans toutes les séquences. S'il manque quelque part, je me mets en colère. Donc, un élu qui vient avec un programme sans donner du sens, d'ailleurs, je dis, mais attends, tu vas aller où ? Et du coup, c'est la mise en agenda des projets sont plus faits par le maire et par la municipalité, mais par une institution qu'on a créée et sur laquelle je reviendrai dans quelques instants, qui s'appelle le Conseil communal de la démocratie, qui a un rôle d'impulsion, d'évaluation et de suivi de toutes les séquences démocratiques. Il y en a 24 en cours actuellement. Et toutes les séquences, puisque j'y suis, sont préparées par des équipes projets formées majoritairement d'habitants, qu'on appellera les agoracteurs, c'est les citoyens entreprenants. Puis on a les citoyens engagés, puis les citoyens qui attendent d'être poussés. Je parlais de quoi, là ?
Les séquences.
Les séquences. Et j'en trouve, là. Et les séquences. Le Conseil communal de la démocratie. Voilà, qui est à côté du Conseil municipal et qui est formé très majoritairement d'agoracteurs, y compris au... Il n'y a pas de vote, mais dès qu'on voit des gens qui sont engagés, qui s'inscrivent dans l'histoire de la construction du bien commun... Plus il y a d'habitants, plus on est content. Il y a une partie de la municipalité, des collaborateurs qui sont très engagés, qui ont été formés au débat public, et les partenaires des associations fédératrices. Donc c'est voilà la grammaire démocratique. Quatrième balise, j'ai observé, vous l'avez observé sans doute, que le désir démocratique de participation n'est pas l'égal de ce qu'on voit dans les sondages d'opinion. Quand vous entendez, vous demandez aux gens est-ce que vous voulez participer, 80% des gens participent, dans la réalité, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, vous prenez Porto Alegre, qui est comme la ville symbole des budgets participatifs, ça mobilisait 1,5% de la population. Vous êtes à 25% de population adulte.
10% si on compte les gens qui participaient au moins une fois.
Voilà. Voilà. Mais de manière continue, voilà. Donc c'est ce qui est bien. Parce que c'est vrai qu'en fonction de la grammaire démocratique dont j'ai parlé, vous avez toute la population qui est concernée, par exemple, par l'information. Toute séquence, tous les gens sont informés. Il y a ensuite peut-être 200 personnes qui se déplacent pour le débat. Et pour le conseil participatif, ou pour les conférences de consensus, ou pour les jurys citoyens, vous avez moins de gens. Mais il faut ça pour la haute qualité démocratique, parce que vous ne ferez jamais la construction avec 100 habitants. C'est juste pas possible, alors par atelier. Donc, quatrième chose, comment créer du désir démocratique ? Et là, avec le recul, je peux dire qu'on a en gros organisé, depuis que je suis maire, des Olympiades de la démocratie. Je résume, pour aller plus loin, 98, alors qu'en 1997, j'étais candidat aux législatives et que dans les communes dont je n'étais pas maire, on m'entendait dire, comme tous les candidats, on vous voit que pour les élections. Et c'est vrai. Les gens viennent chercher les voix, je faisais du porte-à-porte. Je suis un ancien prof d'éducation physique, j'étais en équipe de France de 800 mètres. Moi, les campagnes électorales, ça me revigorait, donc je faisais du porte-à-porte. Voilà. Et du coup, on entendait ça plein dans la figure. Et dit, dans ma commune, je vais relever le défi. Et du mois de mai 1998 en septembre, tout en assurant les réunions classiques, mais du 8h du matin à 8h du soir, je faisais du porte-à-porte, j'ai vu tous les habitants, ceux qui étaient présents. D'ailleurs, c'est étonnant, je parle d'une anecdote, quand vous dites aux habitants, ils sont informés un jour avant par une tracte en disant « le maire vient vous voir entre 14h et 18h ». Quand ils lisent ça, en fait, je me suis rendu compte, pour tout le monde, je vais être là à 14h. Mais comme quoi, la communication, c'est tellement dur. Je dis, pour vous, c'est normal, je dis 14h, 18h, vous pensez qu'il ne pourra pas, que le maire peut être pas là partout à 14h. Donc, on a fait ça en 98. Pourquoi ? On a fait cette démarche de porte-à-porte. Ça aurait été d'une grande clientélisme absurde si c'était juste pour prendre en compte les problèmes des gens. Parce que d'autant plus, on a un service public à l'eau technique qui prend en compte dans le quotidien. Mais c'était, en fait, pour donner l'occasion de distribuer à tous les habitants, tous les foyers, un questionnaire sur « Parlons ensemble de notre ville ». En d'autres termes, la proximité de l'écoute du maire sur les sujets que j'ai dictaphonés et sur lesquels il y a des réponses pour tous, y compris négatives, avec des explications... je leur ai demandé de participer à réfléchir à l'avenir de la ville. Toutes les questions iconoclastes, les impôts, évidemment, on en paye de trop, les logements sociaux, 82% ne voulaient pas. Donc, toutes les questions qu'on a posées. Et les gens, ils mettaient au minimum une demi-heure pour répondre au questionnaire. eh bien, le fait qu'il y ait eu ce contact avec le maire, souvent les gens voulaient m'inviter à boire un café, donc je débordais dans la journée, et c'était un été terriblement chaud, je me souviens, j'ai pété les plombs une ou deux fois quand même. Et donc, 42% des personnes, des foyers ont répondu à ce questionnaire. Et ça nous a permis une restitution ville et non pas quartier, avec 300 personnes à chaque fois. Et là, j'étais en position de dire, mesdames et messieurs, j'ai entendu le souci, je le dis gentiment, hein, les crottes de chiens, les gendarmes couchés, les problèmes de voisinage, ok, ce soir, on parle de politique. C'est-à-dire, on parle de la ville, de la culture, de l'éducation, de l'insécurité, qui est une affaire personnelle. Du coup, on a élevé le débat public, avec une restitution du questionnaire. Ça, c'est le premier événement qui a donné le là, qui a permis progressivement à construire des outils, dont je parlerai tout à l'heure. Deuxième élément important, nous avons lancé symboliquement, on reste toujours là-dessus, les états généraux permanents de la démocratie en 2004. Ce qui est important, c'est le mot permanent. C'est de dire que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, elle naît au sens de la naissance. C'est un thème très proche d'Anna Arendt, le pouvoir commencer. Elle disait que, autant le pluralisme et l'apanage de la démocratie, la natalité, c'est la question de l'éducation. C'est-à-dire, c'est toujours la question du pouvoir commencer. Et chaque fois qu'il y a un sujet qui est à mettre sur la table, à chaque fois la démocratie recommence, renaît. Renaît parce que c'est la démocratie vivante. Et l'idée, c'est de dire de permettre à chacun qui le souhaite, parce qu'on n'est pas dans un totalitarisme, à chacun qui le souhaite, d'être coproducteur de la décision et copropriétaire de l'intérêt général. C'est pour ça que les élus ne peuvent pas se targuer d'être seuls garants de l'intérêt général. C'est un discours qui ne passe pas. C'est qu'il faut l'épreuve démocratique de chacun pour comprendre que le bien commun, c'est le passage du jeu au nous. Nous sommes tributaires du nous collectif. Maison de la citoyenneté construite en 2006. En 2011, nous avons décliné le pacte civique, dont je suis cofondateur, co-auteur, sur la commune. Le pacte civique dit deux choses. Un, comment construire une société créatrice de sens, sobre, juste et fraternelle. Comment construire du futur désirable. Quelque part, Hamon a beaucoup entendu les gens du pacte civique, des jours heureux et d'autres dans lesquels j'investis. Mais c'est un mot juste, c'est un mot de futur désirable. Comment construire une ville désirable pour tous. Et donc on a décliné ça localement, avec l'idée que, là aussi, n'attendez pas tout du maire. Cette ville va changer avec l'apport de chacun, avec l'apport des organisations et l'apport de la ville. Ça, c'était donc 2011. 2015, constat que vous faites assaillant, que toutes les communes font, pourquoi TLM ? Pourquoi toujours les mêmes ? Pourquoi les TLM ? Pourquoi toujours les mêmes ? Pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin, à élargir, à faire, voilà. Et du coup, on a fait un deuxième porte-à-porte, pas tout seul, avec des élus, des agoracteurs, c'est-à-dire des citoyens très engagés déjà, et on a fait une consultation citoyenne sur la base de propositions de 20 projets très, très concrets, puisque ce mandat, c'est la sobriété de la démocratie. Et on peut d'ailleurs atteindre la sobriété que par la démocratie. On n'a pas de plus grands projets structurants, on a à peu près tout ce qu'il faut dans la commune, et donc, comment faire des petites choses ? Donc, une occasion de mobiliser les gens sur des petites choses. On pourrait donner les exemples tout à l'heure, ils font foison, il y a 24 séquences actuellement en cours. Et donc, on a rencontré les gens, 300 personnes s'engagent, sur maintenant 24 séquences qui sont planifiées sur 3 ans. Ce qui était nouveau, c'était d'essayer de toucher ce que Mme Le Pen appelle les invisibles, les gens qui ne viennent pas, les gens qu'on ne voit pas ni dans les associations ni autres, mais que vous vouliez leur dire, en fait, on allait leur dire, on ne cherche pas votre voix, on est un an après les élections, on vient vous dire que vous êtes chacun important dans la ville et que on vous offre d'être coproducteur de plein de choses qui peuvent se faire dans la ville. Et donc, on l'a fait avec la création du Conseil communal des démocraties dont j'ai parlé, les équipes projets qui se forment pour avancer. J'ai aujourd'hui à mes côtés deux personnes chargé de l'épanouissement des valeurs et des pratiques démocratiques, qui essaie de faire le lien, et c'est pas simple, là c'est le quotidien, c'est le processus long, lent, humble, pour construire du consentement entre des techniciens, entre des habitants, certains viennent aussi pour leur ego, des élus, parce que c'est pas le meilleur des mondes, je dis souvent, c'est pas parce qu'on est citoyen et pas élu qu'on a la science infuse, c'est pas parce qu'on est élu qu'on connaît la vérité. Donc c'est pas le problème, il faut juste mettre de plein pied pour avancer. Et là, d'avoir des facilitateurs, comme vous aviez Tristan ou d'autres, c'est important que dans nos communes, on puisse avoir de l'ingénierie démocratique. Des gens dont le métier, c'est de faire en sorte d'émerger la parole, d'éviter à ce que ce soit toujours celui qui gueule le plus fort qui prenne le pouvoir, de voir comment on peut avancer ensemble, trouver, mettre de l'huile dans les rouages, tout ça. Donc ça, c'est le rôle des facilitateurs. Et donc, on est là, en Agora 15-20, projet devant nous, parallèlement des sujets magnifiques dont je vais parler maintenant à propos des outils. Quels sont les outils ? On a à peu près essayé tous les outils, il faut qu'ils soient proportionnés aux enjeux. Exemple, j'avais mis à l'ordre du jour d'un conseil municipal le vote électronique. Mulhouse le pratique, et je me dis, tiens, c'est comme ça, pas. On ne passera pas 36 heures à compter les bulletins de vote. On fait un vote électronique, 5 minutes après, on connaît les résultats. Je suis allé vraiment de bonne foi, avec l'idée de dire que ça passera sans problème. Sauf qu'un opposant commence à me dire, mais votre truc c'est bien, mais avec ça vous pouvez tricher. Ouh là là, ça m'a touché. J'ai dit, écoutez, si vous pensez sincèrement ça, je retire cette question de l'ordre du jour. Et j'ai confié cette question à un jury citoyen tiré au sort, qui a travaillé avec des gens qui ont plaidé pour, d'autres gens qui ont plaidé contre. Et le jury citoyen, après un week-end de travail, a proposé de conserver le vote traditionnel. Je suis arrivé au conseil municipal, j'ai proposé la proposition du jury citoyen, et je m'en souviendrai toujours, un grand moment de délice démocratique. J'ai entendu la dissonance entre l'opposition et la majorité. J'ai reconnu qu'il y avait un problème. Je l'ai confié à la pratique citoyenne, et je reviens pour créer du consensus. Moi, je trouve que c'est beau comme schéma. Accepter l'idée qu'on peut se planter, de revenir, d'avoir la médiation citoyenne, et ensuite d'avoir une majorité au sein du conseil municipal, dont le rôle est de décider. Donc on est sur des outils très différents, conférences de consensus, diagnostic en marchant plutôt que les réunions quartier classiques, c'est-à-dire on invite les habitants par quartier pour cheminer ensemble. On va faire un mix sans doute en 2018, à la fois un questionnaire en amont pour inciter les gens de se raccrocher aux jardins partagés qui sont en train de se créer et qui vont être ensuite plus popularisé, pour voir comment on peut travailler sur les apéros citoyens, il y en a déjà 18, comment on peut plus mobiliser des gens, donc donner envie aux gens de venir marcher avec nous, et on termine par une agora de ce type-là, pour dire, voilà, on met sur la table ce qui ne va pas, mais attendez, on va tout noter, puis on verra qui peut faire, et qui va s'engager. L'idée de l'engagement, c'est en fait l'idée de comment remettre de la responsabilité et de la solidarité dans l'espace public. C'est juste ça, démocratie d'exigence. Comment remettre de la responsabilité. Et voilà. Ensuite, il y a les conseils participatifs. Là, je suis assez fier d'en parler parce que ça marche bien. Les conseils participatifs sont créés à chaque fois qu'ils sont mis en agenda un projet, soit inscrit dans le contrat municipal pour lequel nous avons été élus, et donc je ne dissocie pas démocratie de représentation et démocratie de participation, ou par les habitants, par la voie d'une pétition qui est une bonne nouvelle pour la démocratie. Et là, on ouvre une séquence, réunion publique, création d'un conseil participatif qui associe toutes les ressources, toujours des habitants concernés, des élus, des techniciens et des experts qui nous permettront d'évoluer et de grandir en objectivité sur le débat démocratique. La philosophie, c'est refuser l'affrontement stérile qu'on voit à l'Assemblée nationale pour accepter la posture d'une fertilisation des points de vue différents. Nous avons des points de vue différents, comment fertiliser ces points de vue différents pour construire des compromis. Nous avons identifié 6 conditions de réussite pour que ça marche, pour que ça ait du sens et de la légitimité démocratique. La première condition de réussite, c'est qu'il faut que pour chaque projet, la base démocratique soit la plus large possible. Il faut que chaque habitant se sente personnellement invité par l'autorité publique et se sente invité à prendre part à la table de concertation, d'élaboration et d'implication. Et donc, sur tous les sujets, base démocratique la plus large. Deuxièmement, la question de la représentativité. Parce que quand vous faites l'acte 1 de la réunion publique, vous avez souvent toujours les mêmes. Et souvent les retraités, que je suis professionnellement. Les retraités, c'est un potentiel démocratique fantastique, mais ils ne représentent pas la diversité. Ni ceux de l'immigration, ni l'ouvrier qui travaille à des heures impossibles, ni les familles monoparentales, etc. Donc, comment parer à ça ? D'abord, je ne sous-estime pas les personnes qui se déplacent. Donc j'encourage ceux qui se déplacent, qui s'engagent. Et donc 60% de la composition du collège des habitants, c'est les gens qui sont en réunion publique. Et on essaie de faire en sorte que ça représente tous les âges et tous les quartiers. Parmi ceux-là, je propose toujours que ceux qui sont directement concernés par le sujet, qui pourraient faire objet de NIMBY, Not in my backyard, partout une école mais pas chez moi, le parc public, oui mais pas chez moi, qui puissent être là, exposer leur point de vue, mais pas être majoritaire. Parce que la majorité de l'intérêt particulier sur l'intérêt général, c'est quelque chose qui ne colle pas en démocratie, qui est l'oxygène de la République. Et donc, on est sur la participation, collège des habitants et tirage au sort pour 40% restants. Alors, sur le tirage au sort, vous sentez certainement la même chose. Statistiquement, c'est une personne sur 6 qui accepte de participer. Pour plusieurs raisons. La première, parce qu'ils sont biberonnés à la délégation de pouvoir. J'ai voté le maire, je lui fais confiance, ce qui est plutôt bien de l'entendre, mais moi, je veux quand même créer de la légitimité, non pas à partir de ce que je suis élu, mais de la façon dont on prend une décision. Et donc, quand même, il y a un vieux réflexe de délégation de pouvoir ou de dire « le maire, c'est un couillon, de toute façon, je ne bosserai jamais avec lui ». Ça arrive aussi, heureusement. Donc, il y a ça. Il y a ce qui me paraît le plus grave, c'est que beaucoup d'habitants ne se sentent pas capables. Ils sont tellement intériorisés que c'est des couillons qu'ils considèrent que c'est l'affaire de techno ou des politiques. Et c'est ceux-là même qui critiquent l'entre-soi technocratique et politique. Et puis, troisième élément, c'est le temps démocratique. Quel temps ? Si je fais 20 heures, mes collaborateurs sont payés en heures sup sur des budgets qui sont en décroissance, et puis ce n'est pas forcément toujours bon pour leur famille. Et si je le fais à 18 heures, je n'ai pas les parents qui peuvent venir. Voilà. Donc on essaie toujours, pour toutes les séquences qu'on ouvre, d'avoir des temps différents, des temps démocratiques qui permettent à la fois aux retraités, plutôt 10h, 11h du matin et 10h midi, des gens entre 18h et 20h, de participer. Mais ça reste un sujet. Ce qui nous renvoie aujourd'hui un des groupes d'Agora 15-20, c'est le numérique, comme étant un outil de citoyenneté et non pas de vidéosurveillance citoyenne. Donc on est bien d'accord que le numérique, pour moi, c'est être citoyen à minuit, mais je ne crois pas que le numérique fera la force d'une démocratie présentielle. Je crois beaucoup à la présence des femmes et des hommes et de dialoguer. La dialogie, elle est essentiellement présentielle, même si la vie des uns et des autres peut être prise en compte, mais je ne vois pas une démocratie qui soit l'addition des envies et la sommation des égoïsmes. Donc on est quand même sur quelque chose de fertilisation, il faut la présence humaine. Le deuxième sujet, c'est donc la représentativité. Le troisième sujet, on ne peut pas commencer une séquence démocratique si les participants, élus, habitants, experts, n'aient pas le même niveau de compréhension des mots et le même niveau de compréhension des enjeux. Et donc toute séquence commence par le retour à l'éducation populaire, c'est-à-dire comprendre les enjeux. Lorsqu'on a associé les habitants à la révision du plan local d'urbanisme, après une réunion publique, eh bien non, on fait des séquences de formation et j'ai tout de suite fixé le cadre dont je parlerai tout à l'heure. Je dis que moi, je suis maire d'une commune qui est un coin de la planète. On n'est pas des Sputnik ou un village gaulois à part. Nous devons donc participer aux accords de Kyoto, au facteur 4. Nous sommes partie prenante du Grenelle de l'environnement à l'époque, de la transition énergétique, de la loi SRU qui nécessite la mixité sociale et de fonction. Et toutes les lois qui font en sorte qu'aujourd'hui, on soit redevable par l'éthique de responsabilité de Hans Jonas aux générations qui ne sont pas encore nées. Et donc, de poser la question de la révision du plan local d'urbanisme, non pas comme l'opinion publique majoritaire qui considère chacun sa maison, ce qui est honorable, mais que si chacun, 82% considère que l'idéal d'habitat, j'y suis, c'est la maison, alors c'est l'artificialisation des terres, c'est demain, il n'y a plus de biodiversité, et c'est un des éléments majeurs de la régression climatique. Donc on est sur un élément important sur l'éducation aux enjeux. Sur le PLU, c'est un sujet vachement important, vous allez traiter, il y a une peur bleue, c'est la densité. Comment faire l'équilibre entre le besoin de logement et le désir d'environnement. Et vous avez des villes qui ont fait un travail remarquable, pas seulement Fribourg près de chez nous, mais Tübingen, qui est une ville jumelée, font un travail sur les dents creuses, sur l'habitat participatif, sur plein de choses qui font qu'on peut vivre bien sous d'autres formes, et pas sur des trucs HLM cloisonnés. On a des salles communes, on vit en fonction de la fonctionnalité. Ce n'est pas les thermos uniquement d'efficacité énergétique, mais aussi la dimension humaine. Un écoquartier, c'est d'abord comment les gens peuvent vivre bien ensemble. On a beaucoup travaillé sur cette question. Et d'ailleurs, c'est les membres du conseil participatif de la révision du plan local d'urbanisme qui viennent aussi en appui sur l'écoquartier que nous avons construit dans la programmation avec un propriétaire privé. On lui a dit, il m'a dit, venez me voir, le gars est venu me voir, il me dit, monsieur le maire, on fait ce que vous voulez faire. Il ne savait pas si bien dire, puisqu'il est passé par le moulinet d'une séquence démocratique, conseil participatif, et on a tous les ingrédients de l'écoquartier. Je dis, ce projet ne se fera pas s'il n'y a pas les ingrédients de l'écoquartier. Donc c'est important de le dire, et les gens sont obligés de jouer le jeu. La quatrième condition qui est importante, c'est le maire ne peut pas être dans la commande politique et dans la décision finale, il faut qu'il puisse prendre du recul et laisser le chemin démocratique se faire. Et donc il faudrait, dans un précédent bouquin qui s'appelle « Faire renaître la démocratie », j'avais suggéré que dans tous les bassins de vie, on a des animateurs du débat public, ou des ingénieurs du débat public. On a des ingénieurs dans tous les domaines de technicité, mais pas dans le domaine très compliqué, très difficile, très enthousiasmant du vivre ensemble et de la décision collective. Et donc, ça s'apprend. C'est ce qui permet à des gens de sortir de la subjectivité, de sortir de l'étiquette politique, de sortir de, d'être dans le discernement, dans le dialogue, plutôt que dans l'irresponsabilité. Voilà. Donc, ça, c'est un élément important. Cinquième condition, et ça, c'est l'honneur du politique, et je le revendique, c'est que vous ne pouvez pas rentrer dans un débat démocratique s'il n'allie pas cadre et liberté. Il n'y a pas de débat démocratique transcendant s'il n'y a pas un cadre quelque part. Parce que si vous ne le fixez pas, avec les habitants, ça peut se mettre en jeu, c'est le périmètre démocratique, ce qui est négociable et ce qui n'est pas. Si vous ne le faites pas, vous créez de fait de la frustration. Parce que les gens qui ne sont pas habitués au débat public viennent et considèrent comme monnaie trébuchante et sonnante leur propre avis. Et leur propre avis touche plutôt souvent l'utopie que le principe de réalité. Donc le périmètre, exemple, sur l'aménagement du temps de l'enfant. On a réussi, on a réunion publique, constitution du conseil participatif, collège des parents, collège des enseignants, faire travailler ensemble, ce n'était pas évident, collège d'experts, collège d'associations. J'ai dit, voilà, on est sur une page blanche, tout est ouvert, on va co-construire ensemble. Mais il y a deux choses qui seront non négociables. La première, c'est que je suis un élu de la République et j'applique la loi. Et je trouve que la loi sur le rythme de l'enfant, pour moi, était plutôt minimale. Moi qui étais enseignant d'éducation physique, je considère qu'on continue à considérer les enfants comme des oies gavées. C'est des oies gavées. Et je trouve que c'est impressionnant les horaires qu'on leur impose. Enfin, c'est la France, quand même, où les journées sont les plus chargées et les contenus les plus... voilà, il y a plus de vacances, il y a plus de... Voilà. Et donc, le périmètre démocratique. Et la deuxième chose, c'est une loi pour l'enfant. Pas d'abord pour les parents, même si on arrive les problèmes après. Et pas d'abord pour les enseignants, même si on l'entend. Et pas d'abord pour les lobbies touristiques. Et ce qui a fait beaucoup fait réfléchir, c'est les chronobiologistes qui étaient venus nous expliquer que, par exemple, pour un tiers des enfants, qui sont des enfants insécures, qui vivent tout le temps de l'insécurité, de l'intranquillité, couper la semaine en deux, c'est absolument dramatique. Et donc, on a la semaine continue, mais avec une journée moins chargée. Et le conseil participatif a décidé un truc absolument original, unique en France, c'est que pendant le temps scolaire, on n'a pas additionné un péri-éducatif au périscolaire et au scolaire, comme si les gamins étaient des tranches de salami qu'on met les uns après les autres. Et donc, on a proposé qu'à côté de chaque enseignant, il y a des intervenants, des éducateurs artistiques du centre culturel qui viennent aux côtés des enseignants pour offrir pour tous les enfants, les 1200 enfants de la commune, un cycle de 12 séances axé sur la créativité, sur la coopération et sur la citoyenneté et sur l'éducation artistique. Parce que cette école compétitive, elle a besoin de changer. Et donc, la révolution, dans nos écoles à Kingersheim, vous avez des enseignants, souvent remarquables, forts de pédagogie, et des spécialistes, que ne sont pas les enseignants, qui sont des polyvalents, et qui apprennent la pédagogie au contact des enseignants. La dernière condition de réussite, j'en arrête là après, et c'est le plus compliqué. Quand vous faites de la haute qualité démocratique, vous ne pouvez pas faire à 300 ou à 200. Les conseils participatifs, c'est au maximum 80 qui travaillent ensuite par atelier. Après, comment restituer ce qui se décide au fur et à mesure avec le reste de la population? Parce que le risque du conseil participatif, c'est devenir une structure de représentation qui s'éloigne des représentés. Donc, voilà, il faut donc, par Internet, restituer en temps réel, en réalité, ce qui se décide au fur et à mesure. Et puis, il y a des règles de participation. On ne vient pas en cours de route ou on ne s'arrête pas en cours de route. Là, c'est un engagement, c'est une charte sur laquelle les gens s'engagent parce que la démocratie, ce n'est pas du bricolage. C'est quelque chose de sérieux. On peut être absent parce qu'on est malade, mais quand on va dans le circuit, on y va jusqu'au bout parce que ça nécessite une permanence, une fertilisation réciproque. Je termine mes propos pour dire que je donne l'impression d'avoir beaucoup d'enthousiasme dans ce que je fais, mais détrompez-vous, j'ai souvent des matins de doute. Mes collègues fatiguent aussi, les collaborateurs aussi. Nous avons des réactions parfois virulentes des habitants. Je me ferai jamais à des bêtises humaines, virulentes non pas sur les séquences, mais tout simplement des trucs à la con que je n'arrive pas à supporter. Du style, monsieur le maire, je me suis baladé le soir au parc des Gravières, qui est un parc de 8 hectares, j'ai vu plein de bordel par terre, qu'est-ce que vous comptez faire ? Le soir où il y avait 600 personnes, évidemment, tout le monde vient de l'agglomération. Est-ce que vous voulez demander aux collaborateurs de nettoyer le soir? C'est impressionnant, cet individualisme privé dont Emmanuel Mounier disait qui nous rend étrangers à nous-mêmes et étrangers aux autres. C'est comme on les vivait chacun dans sa bulle. Et donc, j'ai plus de certitude. Je suis assez content d'avoir plus de certitude. J'en avais sans doute au début de carrière, j'avais des dogmes, etc. Mais il me reste quelques convictions, parmi lesquelles trois convictions. La première, c'est qu'il me paraît évident aujourd'hui qu'il faut concilier démocratie et exigence. C'est un beau mot. Et je dis souvent que tant que la démocratie est un stade infantile, il ne faut pas s'étonner que la politique soit une cour de récréation. La deuxième chose, c'est concilier démocratie et transformation. Je le disais tout à l'heure, toute l'idée pour moi, une démocratie qui consisterait juste à se faire plaisir sur des techniques, même si c'est important, et ce n'est pas transformatrice en profondeur d'une société ici et maintenant dans nos communes, parce que je pense que la révolution viendra de là, à quoi bon ? Et puis la dernière, peut-être je peux heurter, mais je crois beaucoup à la fertilisation entre la démocratie et la question spirituelle qui n'est pas ramenée à la religion. La question spirituelle qui interroge la question de l'intériorité, du grandissement personnel, du refus de ce qui est inhumain et qui est régulée par les règles démocratiques de la tolérance, de la laïcité, etc. Mais cette dimension de verticalité dont parle Abdennour Bidar et qui disait que le 19e siècle, c'était le siècle de la conquête politique du social, le 20e, de la conquête politique de l'égalité, et on n'est pas arrivé, le 20e siècle sera le siècle de la conquête politique et spirituelle pour une fraternité universelle. Parce qu'au fond, ce que je vous dis, et l'utopie qui est la mienne, qui parfois me rend mal, et parfois malade de tout, c'est qu'au fond, on a une vocation première, c'est d'être frère en humanité, au fond. C'est ce que je crois profondément. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on s'éloigne très fortement par cela, par la marchandisation des consciences, par l'ultralibéralisme, par l'argent roi, alors qu'il y a tellement de potentiel de bon, de meilleur en nous. En fait, je crois profondément qu'on ne peut construire de commun qu'en donnant le meilleur de soi-même. Merci de m'avoir écouté. Là, je commence à... Ça va. Super, merci.
J'imagine qu'il y a pas mal de réactions, de questions. Il y a pas mal de choses aussi qui font écho à ce qui se passe à Saillant et dans comment fonctionner dans les outils. Juste aussi, parce que nous, on est en train de réviser notre PLU aussi. Moi, j'ai vu sur votre site internet que vous aviez rénové votre salle des fêtes. Donc, c'est aussi, ça fait partie des projets qui sont en cours. Donc, peut-être qu'on peut échanger sur ça, sur le site PLU. Qu'est-ce que j'avais. Voilà, des groupes de des tirages au sort. Donc, nous, le Conseil des Sages, l'Observatoire de la Participation, a pas mal réfléchi sur ça. Et ça va se mettre en place prochainement. Donc, voilà, il peut y avoir plein de passerelles aussi à faire sur les forums ouverts, les agoras. C'est des choses qu'aussi on a réfléchi et qu'on est en train de peut-être mettre en place un jour. Donc, voilà, sur tout ce que. Enfin, on laisse la parole libre si vous avez des questions, des réactions. Et puis, qu'est-ce qui fait écho à la démarche de Saillant sur les freins, les difficultés, la mobilisation des habitants, c'est des choses qui reviennent aussi beaucoup. Sur le temps, la lenteur de la démocratie, ça fait partie des critiques aussi. On entend souvent, ça prend trop de temps, il y a beaucoup de réunions. Bon voilà, moi je sais que ça fait quoi, plein de choses. Donc là, ça, la parole est juste si on peut se dire qu'on essaie d'être vigilant, de laisser que tout le monde puisse avoir la possibilité de parler. Donc je sais que certains, c'est facile de s'exprimer en public, d'autres un peu moins. Et du coup, de laisser d'être vigilant, que ceux qui n'ont pas parlé puissent s'exprimer. Et, voilà. Il est 8h moins 10, je crois, donc ça laisse après. Ceux qui vont au spectacle, regardent là. Voilà, libre à chacun, à chacune.
Après, on a un peu à notre vie quand même. C'est vrai qu'il va falloir quand même gérer tout ça, c'est super intéressant. Puis, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la proportion d'habitants qui vraiment sont derrière vous, quoi.
Difficile à dire. On avait fait venir Alexandre Jardin, on aurait pu venir d'autres, en octobre pour faire le point sur Agora 1520, un an après. Et donc on a travaillé sur un PowerPoint, j'ai demandé aux équipes de travailler sur le bilan, combien de gens informés, combien de personnes en débat public, conseil participatif. Sur les 10 dernières années, nous avons réuni 40 conseils participatifs, pas de même amplitude, pour 700 personnes différentes. Ce qui est bien, c'est des gens qui sont engagés au long cours. Par exemple, sur... Ah, j'ai oublié une balise importante, c'est que, évidemment, tout ce que j'ai dit, c'est pour mieux dessiner ensemble, mais en même temps, on est très attentif à ce qu'on soit bienveillant avec ce qui vient du terrain. Comment on peut susciter et encourager le pouvoir d'agir. Et notamment, on a mis en place un fonds d'initiative citoyenne qui se transformera sans doute l'an prochain en budget participatif. On fera un groupe de travail là-dessus. Mais le fonds d'initiative citoyenne, c'était permettre à toute personne qui le souhaite de favoriser le vivre ensemble. Et donc c'est un budget qui représente 5% du budget d'investissement. Et il sera épuisé, J'essaie de faire une validation pour que le droit commun puisse alimenter un certain nombre de projets, parce que ça part de partout. J'ai un EcoFab Lab qui est en train de se constituer. Il y a un groupe qui travaille sur le liaison entre le parc des Gravières et les 80 hectares de zones d'étang et de forêt, ce qui fait que le parc deviendra un parc de 80 hectares avec l'aménagement de la route, etc. Ça, c'est les habitants qui travaillent dessus. On a des indicateurs qui montrent que c'est pas mal, mais c'est absolument pas l'objectif suffisant. Je mets la barre plus haut.
Vous êtes combien d'habitants ?
13 000 habitants. Mais en fait, il faut partir. En fait, si vous prenez la grammaire démocratique, en information, tout le monde est concerné. Informé. Déjà ça. Et je trouve que c'est une part importante de la démocratie. Après, pour le débat, vous multipliez le nombre de séquences, vous avez souvent la maison citoyenneté qui est pleine. Donc c'est des centaines d'habitants. Mais juste pour le débat. Parmi les gens qui débattent, il y en a ceux qui s'engagent plus sur les conseils participatifs. 700 en 10 ans, c'est pas mal. Puis ensuite, ça repart en haut parce que ce qu'on décide, ça permet aux gens de faire. Et du coup, on a une journée qui est née d'ailleurs à Bervillers, un petit village de près de chez nous, à qui j'ai proposé d'être président de l'agglo, parce que là aussi, sur l'interco, je suis un militant fervent de l'interco, à condition qu'ils mettent de la démocratie, ce qui est encore tout au départ. Il faut tout refaire. En tout cas, il faut tout faire, parce que ça n'a pas été... Je sais que ça pose un problème. Et bien donc, on fait une journée citoyenne. Là, à Kingersheim, on arrive à mobiliser 700 personnes pour donner un coup de main, pour aménager, pour faire le désherbage, pour ramasser les détritus, pour repeindre des salles de classe. Enfin, c'est un gros travail avec les collaborateurs en amont, et un adjoint qui est en charge de ça, une collaboratrice qui est en plein temps actuellement là-dessus, qui sera ensuite en plein temps, et je vous invite tous, à l'organisation des rencontres de l'interrogation démocratique. Évidemment, l'équipe sera vraiment invitée sur 6 et 7 octobre. On invite tous les gens qui s'interrogent sur la démocratie.
Juste pour clarifier la grammaire... Ouais. Les collaborateurs, c'est les employés de la commune.
Oui, c'est les fonctionnaires publics des territoriaux qui sont complètement partie prenante, ce qui fait que la question qui se pose souvent, moi parti, dans 3 ans, ça va se faire, oui, s'il n'y a pas un renversement de gouvernement. Parce que je pense que celui qui peut gagner dans l'opposition, il peut être dans la posture en disant ce qu'a fait le maire, c'est de la merde, on va faire des réunions de quartier classiques, regardez-moi, je suis dans le débat démagogique. Quoi. Je ne suis pas sûr de concevoir. Ceci étant, je ne partirai pas sans préparer. Donc j'ai des équipes... qui est prête, enfin qui prépare, une partie qui va se renouveler. Il y a des agro-acteurs qui sont au nombre de 40, 50, qui connaissent le PLU aussi bien qu'un architecte urbaniste aujourd'hui, qui sont montés en compétences. On a un potentiel de gens qui... Voilà. Alors, peut-être j'anticipe une question qui est posée. En quoi la participation démocratique peut changer les choses? Je veux affirmer 2 échecs. Le premier, c'est qu'il n'y a pas plus de participation aux élections qu'ailleurs. Donc, croyons pas que la démocratie de participation va peut-être, dans un premier temps, susciter plus d'électeurs. Parce que, précisément, on ne touche pas ceux qui viennent déjà pas voter. C'est un vrai sujet, ça. Deuxièmement, je n'ai pas réussi à faire diminuer le vote du Front National, qui est très important dans toutes les zones périurbaines. Vous avez lu le sociologue Guy Gulli sur la périphérie. C'est des villes périurbaines où il est fréquent de voir un score du Front National sur des enjeux qui ne sont pas nationaux à 40%. Le Pen fera des sur 30% dans ma commune. Alors que dans des quartiers, dans un quartier, on appelle quartier des Italiens parce que l'immigration italienne qui a beaucoup travaillé comme maçon, qui refait la ville, le but de blues, etc. C'est des gens adorables. Et puis il se trouve que je crois que je leur parle au cœur quand ils font leur fête. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'attachement, et parfois c'est dangereux, mais c'est un peu un attachement presque, comment dire, je trouve pas le mot, mais profond entre ce que je pense et je mets à la place de l'immigré qui se sent vraiment partie prenante, mais qui vient de loin, qui a une certaine avec le baluchon, etc. Et donc, ils sont en même temps ils sont très proches, le quartier est très proche de Mulhouse-Bourtulaire, qui est un quartier où est né le premier conseiller général Front National de France. Quartier à forte proportion d'immigration, où les ouvriers sont partis de là parce qu'ils se sont sentis, voilà, tout le problème que vous connaissez. Et avec la proximité qui crée le halo de peur, parce qu'en fait, on a peur d'avoir peur un jour. C'est ça le problème des périphéries, on a peur d'avoir peur un jour. C'est quelque chose d'incroyable. Et dans ce quartier-là, ça vote à 45-50% parfois pour Le Pen et à 70% pour une équipe municipale. C'est pour ça que je ne condamne pas les électeurs du Front National. Et c'était une erreur dramatique de montrer du doigt les électeurs. Évidemment, il y a des fachos, ceux-là, ils savent, ils n'ont pas besoin de montrer du doigt. C'est des fachos, ils ne changeront pas. Mais parmi des gens, vous avez des gens déboussolés qui iraient soit s'abstenir, mais voter l'FN parce que le matin à 8h, en pantoufles et presque en pyjama, ils viennent dire merde à la société, je vais voter Le Pen, j'en ai rien à foutre, je vais comme à la loterie, j'ai une chance sur 1000 que ça change, mais au moins je la mets celle-là. Et puis je vous emmerde tous. En gros, c'est ça qu'ils disent. Voilà, et en fait, Ce que je pense, c'est que dans les communes qui font la participation, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il y a de la transparence et donc on crée de la confiance. Ce qui fait que depuis que je suis maire, on a un rapport inversé dans les résultats électoraux entre le vote national, c'est une ville de droite chez nous, sociologiquement de droite, et le vote local. Par exemple, Sarkozy en 2007, faisait 63%. Nous, en 2008, on a fait 69%. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes électeurs, mais on a toute une série. On a au moins 3500 personnes qui nous suivent, quoi qu'il arrive, dans la commune. Et c'est vrai que, voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que je pense qu'on réussit, avec cette démarche-là, de démocratie, de responsabilisation, de dépasser le quant à soi de l'étiquette. C'est-à-dire qu'on essaie de rassembler sur les valeurs métapolitiques. Et je pense que les gens sont beaucoup plus proches rassemblés sur des valeurs que ce qu'on veut bien dire, à condition que les valeurs qu'on définit se traduisent par du concret. Par exemple, j'ai fait très attention aux mots utilisés. Il y a un mot qui n'est jamais utilisé dans l'espace public, c'est le mot « respect ». Ben, ça rassemble aussi bien des gens qui ont peur que des gens qui n'ont pas peur, des gens qui sont sur la caisse de l'insécurité ou pas. Donc le respect, c'est quelque chose qui est une valeur qui n'est pas spécialement de droite. C'est une valeur qui est à partager par les humains, comment respecter les uns les autres. Donc c'est aussi dans le choix des mots qu'on peut essayer de faire passer des messages et une forme d'adhésion. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, d'ailleurs.
C'était quoi la question ?
J'ai une question par rapport au tirage de sort. Sur quelle base la commune se base ? Qui peut être tiré au sort ? Est-ce que c'est uniquement sur les listes électorales ?
Non, c'est sur l'État civil.
Sur l'État civil ?
Oui. De telle sorte que les habitants qui n'ont pas... qui ne peuvent pas voter, peuvent participer à la vie démocratique locale.
Alors, pour le moment, on est... 16 ans,
alors, nous avons là, par exemple, sur le conseil participatif qui a construit la programmation du parc des Gravières, qui est la reconversion d'un vieux terrain qui a été fait par mon prédécesseur en 83 et qui a été fait sur une ancienne gravière devenue une décharge, on a mis des bus, ce qui fait qu'au bout d'un an, le stade d'athlétisme s'est effondré. Et moi, j'ai fait le meilleur fartlek sur le meilleur stade de France, qui était à 8 mètres de dénivelé. Donc, on avait un stade absolument fou, une friche sportive. Et donc, sur cette friche, on a fait un parc public intergénérationnel, 600 plantations d'arbres, végétation, un truc super, un travail qui était co-construit avec les habitants. Et il se trouve qu'on a une association de jeunes, plus d'agglomération que de ville, qui est venue me voir en disant, « Monsieur le maire, on apprend que vous allez faire un parc public, on voudrait faire un skate. » Je dis, écoutez, c'est super, vous allez constituer un collège au sein du conseil participatif. Ils sont venus à 20, hein, avec les casquettes et tout, et ils ont posé la question. Et je m'attendais à des réactions de la part des collèges d'habitants, des plus âgés, etc. Pas du tout. Et en plus, les jeunes dont on dit qu'ils sont irresponsables nous ont fait deux propositions. La première, c'est que faire un skate enterré, ce qu'on appelle les balls. Et la deuxième, quand l'architecte, qui sont parfois, j'espère qu'il n'y a pas d'architecte dans la salle, certains sont dans la suffisance. Donc ils arrivaient en disant que voilà, ça coûte 150 000 euros. Les jeunes m'ont dit, mais monsieur le maire, on n'est pas sur un bol de 150, pour 150 000 euros. Nous, notre projet, ça coûte 50 000 euros. Voilà l'expertise d'usage. Fantastique. Le seul hic, c'est qu'une fois qu'ils ont atteint, ils ont fait admettre le bol dans le projet programmatique, on ne les a plus vus. Et c'est un échec, parce que je pense qu'on aurait dû même anticiper en disant, bon, ben, voilà, c'est reconnu, c'est acté, ça serait bien de continuer à travailler avec nous, parce que le parc des Gravières, c'est un rambla, comme à Barcelone, et de part et d'autre, il y a des jeux pour toutes les générations. Du coup, on n'a pas les jeunes dans les zones industrielles, parce que les jeunes, évidemment, c'est pas nous, mais c'est sociologiquement des Spoutnik venus d'ailleurs. On a les petits-enfants, les enfants, les retraités, on a un mix générationnel superbe.
Donc les jeunes et les personnes d'origine
étrangère, sont associés. Super. Pour moi, c'est toujours du bonheur d'associer les citoyens, quels qu'ils soient.
Et juste pour rebondir sur le panel, enfin le tirage au sort, est-ce qu'il y a l'idée de pour qu'il y ait une réelle représentation, tant d'actifs, tant de jeunes, justement, peut-être tant de...
Oui, alors il y a une matrice qui a été un peu utilisée, mais comme je n'ai pas le tirage au sort, c'est un groupe majoritaire et d'opposition qui ont fait le tirage au sort. Sur quels critères, je ne peux pas trop vous dire. Je pense qu'il faudrait que j'affine. Honnêtement, c'est une bonne question. Mais c'est un vrai sujet, hein, parce que ça suppose d'être disponible le soir, de téléphoner à tas de gens pour voir une personne sur six. Donc, préparez-vous à...
Et quelle a été l'assiduité des personnes tirées au sort ?
C'est les meilleurs.
L'assiduité, ensuite.
C'est les meilleurs.
C'est quoi la longueur d'une séquence démocratique ?
On peut dire en gros qu'en moyenne, sur l'expérience, c'est 18 mois. Mais ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. Parce que si vous inscrivez le temps démocratique dans le processus de décision, c'est du temps gagné. Même le conseil participatif sur l'aménagement pour le parc des Gravières, on a dû arrêter un an parce que je n'étais pas sûr d'avoir les aides européennes. J'ai senti une grosse frustration, j'avais fait un pot. Alors est-ce qu'on finance les participants ou non ? Non, on fait des pots. D'ailleurs, souvent, les gens se lâchent plus, il y a plus de débats, plus de discussions, etc. Et donc, on a attendu pendant un an pour les fonds européens pour revenir construire avec eux. Donc, il y a l'aménagement de temps d'enfance, 18 mois, avec au passage le municipal. Donc, la récupération possible, politicienne, ça n'a pas été fait, c'était plutôt bien. On n'a pas, il n'y a pas eu une introduction de la politique politicienne dans la discussion. Donc, oui, il faut... Moi, je parle de démocratie lente. Il y a d'autres le projet de construction d'un lieu de culte musulman porté par une association notamment formée de jeunes qui étaient conseillers municipaux quand j'étais jeune maire. C'est un projet absolument casse-gueule dont j'ai été saisi et j'ai beaucoup travaillé avec l'association et à un moment donné je me dis, attends, c'est pas un problème technique cette affaire, c'est un problème démocratique. Et non pas pour dire qu'il faut ou pas la loi de laïcité, là pour dire à la loi de 1905 qui n'est même pas discutée. Sauf que, comme c'est un terrain communal que nous voulons mettre à disposition, parce que c'est le terrain le plus proche du quartier où il y a plus de Kinyersaïmois de religion musulmane, j'ai profité de ce débat, de mise à disposition du bail amphithéotique, pour construire un conseil participatif absolument remarquable, avec une première réunion publique, la maison citoyenneté remplie, avec des gens qui sont venus avec la peur, qui ont dit « moi j'ai peur des musulmans », d'autres qui, des gens que j'ai jamais vus, de la deuxième génération d'immigrés qui est venue à la maison citoyenneté, plein de gens d'origine, de confession musulmane, pardon, et puis d'une diversité incroyable. Et on a préparé ça vraiment très fortement. On a invité Joël Roman, le président de l'association Islam Laïcité, la chargée de mission de l'Observatoire national de la laïcité, et on a demandé un médiateur pour travailler, ce qu'on appelle un ingénieur débat public. Il a fixé les règles. On est bien d'accord avec un...
un diaporama.
Voilà, en disant, voilà, on est d'accord sur les règles, on ne dit pas « on ne s'applaudit pas », j'ajoutais, on n'est pas l'Assemblée nationale, mais chacun peut s'exprimer, liberté de parole, simplement, quand quelqu'un parle, les autres écoutent. 3 heures de débat, remarquable. Et à l'issue du débat, j'avais à côté de moi le président de l'association, j'avais à côté de moi Muriel Maffesoli, la directrice de l'ORIV, qui nous a accompagnés, l'Office régional de l'intégration et de la ville, donc là, une expertise. Et puis, il y avait le collège des habitants, le président du collège des habitants. Et à la fin de celui qui allait devenir président du collège des habitants, puisque le conseil participatif est né à l'issue de cette réunion. Et à l'issue de cette réunion, le président de l'association me dit, monsieur le maire, est-ce que je peux dire un mot ? J'ai eu avec plaisir. Ça sera le mot de conclusion. Il m'a dit, écoutez, moi, j'ai accepté ce débat. Ce n'est pas simple pour nos musulmans. Et je pense que je l'ai d'ailleurs dit, si j'étais sur un problème catholique, peut-être que je n'aurais pas été obligé de prendre la même démarche. Mais j'aurais dit, ce n'est pas une démarche défensive. C'est une démarche de dialogue, de lutter les rumeurs qui circulent dans la ville, de lutter contre ces discriminations et au contraire d'apporter dans l'édifice, là, localement, cette capacité de relier la laïcité et les religions et la République. Et donc, c'est une réunion fantastique. Et le gars, il s'est dit, écoutez, moi, je vous remercie de cela, de cette démarche. Je vous remercie de la qualité du débat et je voudrais qu'on s'applaudisse. Les gens se sont tous levés et sont tous applaudis. Moi, je suis rentré à la maison et sur le mur de mon Facebook, j'écris « Plus heureux qu'un soir des élections ». Magnifique. Et on a créé un conseil participatif avec 23 habitants volontaires, dont des gens qui étaient contre, 10 membres de l'association, 10 élus, dont l'opposition qui n'a pas voulu venir, et un collège de partenaires extérieurs, de personnes ressources, le curé de la paroisse, le pasteur, l'imam de l'aumônerie de Strasbourg, le représentant de l'État dans la lutte contre la radicalisation. Bref, ce qui est très important dans la composition des conseils participatifs, c'est la diversité pour qu'on puisse engager le débat intelligent, apaisé, différencié, mais qu'on puisse réguler le débat. Ça, c'est vachement important. Parce que si, par exemple, pour l'espace d'un jeu, vous invitez que les riverains immédiats, vous êtes morts. Hein. C'est pas la peine de faire une réunion publique. C'est contre, point, la ligne. Mais si vous invitez le deuxième rang, ce que j'appelle le silence de satisfaction, des habitants, ben vous régulez. Et donc, pour les espaces de jeu, c'est terrible pour un maire. Hein. Faire un espace de jeu dans un quartier, c'est absolument terrible. Et donc, j'ai invité le conseil municipal des enfants, que je ne fais plus, parce que c'est devenu le club de Perlin-Bimpin. Mais à l'époque, c'est le conseil municipal des enfants. C'était les habitants du premier cercle et les habitants du deuxième cercle. Et puis, des élus. Et on a mis 2 ans, ce conseil participatif. Pour dégager un consensus, pour maintenir un espace de jeu, et moi qui suis prof de gym, je dis que le métier de l'enfant, c'est de jouer. Et ça, pour moi, c'est non négociable. Par contre, on a trouvé un compromis pour mettre des clôtures, un gardiennage de l'école pour fermer la porte le soir. Et on a trouvé, face à l'intranquillité et la peur, qui est un levier incroyable de résistance au changement, mais la peur, c'est vraiment le truc le plus important. Les gens ont peur. Voilà. Et souvent d'eux-mêmes. Donc,
Je voudrais savoir comment vous avez fait. Enfin, j'ai bien entendu que vous avez mis 20 ans, ça m'a découragée tout de suite. Mais c'est pas grave.
On va capitaliser les expériences.
Voilà. Je voulais savoir comment vous aviez fait avec vos élus d'opposition. Comment est-ce que vous arrivez quand même à les faire participer à une commission ?
Alors, l'opposition actuelle n'a pas voté la charte de retournement démocratique qui lançait Agora 15-20. J'ai toujours voulu la légitimité du conseil municipal pour lancer une démocratie, des séquences fortes.
C'est quoi le 15-20 ?
15-20, c'est 2015-2020, c'est une démocratie continue, réelle, effective. Ça a suivi King Ensemble de 2011, avec des thématiques nouvelles. Et Agora 15-20 s'appuie sur une charte de retournement en 5 points. Désormais, pratiquer davantage la démocratie dans l'intervalle des élections que pour les élections. Deuxièmement, associer les citoyens au processus décisionnel plutôt que de rester dans l'entre-soi des élus. Des clivages partisans et souvent artificiels. Troisièmement, fertiliser les politiques. Quatrièmement, développer le pouvoir d'agir. Et cinquièmement, œuvrer pour une éthique de la discussion. Ça, c'est pour moi très important, apprendre à se parler, apprendre à accepter qu'il y ait des désaccords pour construire des accords. L'éthique de la discussion, c'est l'inverse de ce qu'on voit là, à l'Assemblée nationale, parce que là, c'est la posture de l'affrontement, en fait. Et donc, on a proposé ça, ils ont voté contre, et contre la participation à Agora 15-20. C'est une connerie même pour eux, parce qu'on a besoin d'une opposition aussi, même parfois de posture au sein des conseils participatifs, ce qui fait qu'ils ont parfois d'une position très, très, très petite lors du vote. Alors, pareil, lors du vote sur le culte musulman, maintenant, systématiquement, pour montrer l'impact réel entre la phase décisive portée par les conseils participatifs, jurys citoyens ou autres, et la décision politique, au début de cette séquence du conseil municipal, je salue les gens à présence, je suspends la séance, et à la place des adjoints qui laissent la place, je donne la place au président des différents collèges du conseil participatif. Ce qui fait que les représentants des collèges du lieu de culte ont expliqué leur travail de plusieurs semaines de travail pour délibération au conseil municipal et pour décision. Et comme l'opposition n'y était pas, ils ont sorti un gros truc à la con, il y a déjà une mosquée à Mulhouse avec une piscine, de dire, rendez compte, c'était en dessous de tout. Mais c'est comme ça. Par contre, sur l'opposant qui était avant, il se trouve que l'opposant avant, il croyait toujours pouvoir gagner, il a toujours perdu. Et en 2008, lors de la soirée électorale, il s'était assis dans la maison de la citoyenneté. J'ai fait un discours de remerciement, la salle était bondée, et je l'ai vu dans la salle. Et là, je me suis dit, Spiegel, si là, tu ne changes pas de discours, tu es vraiment en dessous de tout, et tu n'es pas dans ce que tu crois en matière de démocratie participative. Et je l'ai vu et je dis, tiens, il faut rien. Je dis, moi, je remercie la présence de Christian Bombaché. Je me mets à sa place. Il a perdu et j'aimerais qu'ensemble, on puisse élever le débat désormais au sein du conseil municipal et qu'on fasse de la participation démocratique, qu'on ne soit pas sur les postures, ni vous, ni moi, que vous restiez dans l'opposition, mais qu'on essaie de trouver le meilleur nous-mêmes. Ça a tellement marché qu'il est aujourd'hui sur ma liste municipale.
La question, c'est est-ce que du coup, il y avait des élus d'opposition qui, petit à petit, ou pour certains sujets, sont rentrés dans les conseils...
conseils participatifs.
Voilà.
Oui, sur les mandatures précédentes, y compris celui qui a pris le leadership, parce qu'évidemment, quand un opposant laisse sa place, la nature est rendue vide. Donc celui-ci a participé, notamment en tant que parent d'élève, à l'aménagement du temps de l'enfant.
Mais pas en tant qu'élu.
Mais ils ont participé. Ils ont été dans une démarche plutôt constructive. Ils n'ont pas profité des élections municipales, par exemple, pour s'aborder le truc. C'est un sujet casse-gueule à l'époque. Mais moi, je regrette qu'ils ne soient pas partie prenante de la participation, tout en respectant la position. Oui.
J'ai une question. Quand vous parlez de l'importance de la transition énergétique pour votre commune. Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà là lors de la consultation de votre plateforme, lors des élections, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu après via l'implication des participations des citoyens ?
Non, en fait, il se trouve que j'étais, pendant un moment donné, président de l'agglomération, après avoir sabordé ma propre communauté de communes, pour en fait renforcer le pouvoir d'agir de l'agglomération au service des habitants. C'est sans doute le meilleur souvenir que j'aurai quand j'arrêterai la politique. Franchement, j'étais président, j'aurais pu être président à vie sur une petite communauté de communes de bassin potassique, 12 communes, très bien. J'aurais pu tourner en rond et sans avoir des services supplémentaires. On a sabordé pour renforcer l'agglo et créer des services publics dans toutes les communes. Parce que pour moi, l'interco, c'est un répartiteur de solidarité où il n'a pas de sens. Des services publics pour tout le monde. À condition qu'ils mettent de la démocratie et pas sur les interco XXL, où vous avez le pouvoir du baron local et de l'administration.
Donc, vous avez développé ce qui n'est pas très clair.
Comment ?
Excusez-moi. Vous pouvez développer ce que vous avez dit, le fait de s'aborder et de remettre du pouvoir d'agir au niveau des agglos.
En fait, j'étais président d'une communauté de communes qui n'avait pas beaucoup de budget, qui avait les budgets de l'État, de l'Europe, pour reconvertir socialement, économiquement, écologiquement le bassin potassique avec la fin de l'extraction de la potasse. Et en 2001, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour créer, par exemple, des crèches, du périscolaire, etc. Par ailleurs, Mulhouse était isolée, avec des communautés de communes autour, riches aux as, qui hésitent entre le marbre et l'or pour faire les trottoirs. Et nous racle les fonds de tiroir pour avoir des politiques sociales, d'éducation et de culture. Non, mais c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Et donc, je me suis dit, on ne peut pas laisser Mulhouse isolée, et nous, on ne peut pas rester sur un format, on ne peut pas apporter tous les meilleurs services publics. Du coup, on s'est sabordé, on a renforcé l'agglomération, avec la dotation globale de fonctionnement beaucoup plus importante et un budget mutualisé, on a réussi à ouvrir dans toutes les communes d'abord services propriété urbaine, le périscolaire dans toutes les salles de classe, dans toutes les écoles, les crèches partout, un tri sélectif que j'ai mis en place qui fait qu'on a 90% de valorisation énergétique et matière des déchets, enfin un truc qui fait que le renforcement là, pour le coup, a créé du pouvoir d'agir supplémentaire en direction des habitants. Je suis clair là ?
Ce qui n'est pas clair, c'est comment est-ce qu'en s'abordant l'interco, vous avez réussi à renforcer l'agglo en termes budgétaires ?
Ils sont... Si, parce que la dotation globale de fonctionnement d'une agglomération est beaucoup plus puissante que la dotation globale de fonctionnement d'une communauté.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes rattaché. Hein.
Voilà. On s'est rattaché, on a fusionné, pardon, à la petite communauté d'agglomération, d'accord, qui était de 5 communes, qui est passée à 16 avec nous. Voilà. Ouais, ouais, voilà. Et ensuite, et donc, du coup, comme un an ou deux ans après, mais ce n'était pas dans mon plan, le président à l'époque, c'était Jean-Marie Bockel qui a finalement passé une carrière quand même très... très ministériel, j'ai pris le relève pour être président de l'agglomération. Et la première chose que j'ai engagée, c'est un plan climat-énergie territorial. Et donc, le plan climat-énergie territorial, c'est la territorialisation de l'action, mais à fond, là vraiment. Et en fait, là aussi, chaque 4 ans, 5 ans, je renforce. Et on a réussi à diminuer de 13% la production de gaz à effet de serre. Et là, on va beaucoup plus loin. Sur le mix énergétique, méthanisation, biomasse, géothermie, on est en train de développer plein de choses sur l'agglomération. Et donc, on décline localement, sur les compétences communales, ce qu'on décline sur l'agglomération. Et en plus, sur l'agglomération, on a réussi à créer une vraie dynamique territoriale avec les associations, les énergéticiens. Je me souviens, j'ai créé un conseil participatif pour le plan climat de 120 personnes, avec des gens qui ne se parlaient jamais. On avait Alsace Nature contre EDF. Et truc, je peux vous dire, pour les faire parler, mais du coup, on a créé là un cheminement partagé sur un projet qui était ensuite retenu à l'unanimité, avec un plan d'action sur lequel on travaille. Moi, je suis toujours fou, parce qu'on va pas assez vite sur la transition énergétique, on est écologique, on n'est pas à la hauteur quand on voit ce qui se fait dans d'autres pays, même si ça a bougé, c'est pas assez loin. Et du coup, localement, on fait les choses. Par exemple, je sais que vous avez travaillé sur l'éclairage public, on a ouvert une séquence. L'éclairage public, c'est la compétence communale. Et donc, là, on a fait une séquence très aboutie. On est en train de la faire. Je vais vous la raconter. On a informé tous les habitants, 2 pages dans King Ursa Magazine, optimiser l'éclairage public. Et on a expliqué, pour des enjeux environnementaux, planétaires, pour des enjeux budgétaires, de sobriété budgétaire, de pollution lumineuse, pour ces 3 raisons, on souhaitait expérimenter l'extinction de l'éclairage public de 1h à 5h du matin. On a informé les gens, on a expliqué comment on va faire, expérimentation sur 15 jours, et pendant ces 15 jours, on a ouvert des zones de débat pour que les gens de tous âges puissent venir en parler. Déception, satisfaction, j'ai pas eu des gens qui sont venus me baffer. Je dis ça entre guillemets, parce que quand j'ai fait le tri sélectif, on a vécu la pire misère. C'était compliqué, parce que passer d'un état à l'autre, des budgets communautaires à budget communal, enfin, c'était compliqué. Et là, finalement, une forme de silence de satisfaction, mais pas palpable. Que 40 personnes qui se sont dévoilées, soit par des mails, parce qu'on avait mis en place un blog, soit 32 personnes qui se sont déplacées pour les temps de débat. Et du coup, j'ai dit, mais comment sentir ça ? Parce qu'au bout, parce qu'on souhaitait qu'après cette expérimentation, avec les habitants concernés, on crée les conditions d'une consultation forte et qu'il appartient aux habitants concernés de construire le type de questions, le quorum à atteindre, à quel moment c'est légitime. Est-ce qu'il faut 700 habitants, 1000, 2000, à quel moment la consultation permettra au conseil municipal de prendre la décision. Donc, en fait, comme il y a 40 personnes, on a proposé aux 40 habitants qui sont manifestés de devenir membres d'un conseil citoyen, pour le coup, c'est-à-dire totalement autonome, à qui j'ai donné la gestion de la suite de l'événement. Et ils ont décidé, en autonomie, de faire une expérimentation d'un an, avec des plages horaires différentes. Ils sont tous les mois présents à la maison de citoyenneté pour répondre aux questions qu'ils ont posées, accueillir les gens, faire de l'interactif, avancer, et puis travailler sur la consultation avec le groupe numérique d'Agora 1520, pour savoir comment on va solliciter les habitants, leur donner envie de donner leur avis. Alors, j'ai eu quelques réflexions depuis, il n'y en a pas beaucoup, 3 ou 4, mais déjà pour eux, d'avoir mis en place ça, c'est déjà une décision. Ils s'adressent au maire. Donc je réponds que ce n'est pas le maire, c'est un conseil citoyen qui travaille dessus. Et entendu, la décision se prendra à la fin au conseil municipal. Mais là, c'est une super démarche. Et je l'ai dit à la presse, plus important que le résultat, c'est la démarche. Moi, j'aimerais pouvoir dire qu'on aura touché, je ne sais pas, 1000 personnes, 1500 personnes qui votent, qui donnent un avis. Évidemment, si cet avis est positif, ce serait un grand bonheur pour moi, parce que je trouve que, personnellement, c'est mon avis personnel, mais là, j'ai vraiment voulu que ça passe par une consultation populaire. Je trouve que c'est de foutre de l'argent par la fenêtre que de mettre la lumière entre 1h et 5h du matin. D'ailleurs, les gens ne se sont pas rendus compte. Quand on discute avec des habitants, je dis, mais on n'en a pas. On ne s'est pas rendu compte, on a dormi, bien sûr. Et la grande question, en fait, c'est l'insécurité. Et quand on leur dit que l'expérience des 1500 communes qui ont fermé, c'est pas vrai, c'est pas plus grave, et que la plupart des vols se font, 90% des vols se font dans la journée, et pas le soir. Déjà, quand on dit ça, on rassure un peu aussi. Voilà. J'ai répondu à votre question ?
Tu as parlé du plan climat-énergie territorial au niveau de l'agglo, et j'ai cru comprendre que tu avais appliqué les mêmes méthodes.
C'est ça.
Dans ta commune, que dans ta commune de 13 000 habitants, dans une communauté d'agglo qui doit faire, je ne sais pas, 80 000 peut-être.
Non, à l'époque c'était 180 000. Ah, 180 000. Et donc, on a fait, premier élément, information sous toutes les formes et tous les ans là-dessus. On touche à peu près 30 000 personnes chaque année, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, on a réussi à mobiliser 5 000 personnes pour faire un débat sur le plan climat, à partir du film d'Al Gore, etc. 5 000 personnes dans toutes les communes portées par l'agglomération. Ensuite, on crée un conseil participatif, puis ensuite, on a fait des propositions au conseil d'agglo qui, toute sensibilité confondue, a voté le plan d'action, mis en œuvre depuis, pour avancer. On n'a pas fait du greenwashing, on ne va pas faire quelques toits peints en vert ou un peu de photovoltaïque pour faire semblant. On travaille vraiment sur le fond.
D'accord. Ça marche aussi à un niveau...
Ça peut marcher. C'est pour ça que la question qui est souvent posée, est-ce que ça marche à toutes les échelles ?
Oui.
Je dis oui, à condition de mettre la préparation, par exemple, une grande ville comme Paris, sur un grand sujet structurant, peut parfaitement partir à je sors, avoir des habitants, un collège d'habitants, un collège d'experts, et de travailler là-dessus. Sur le Conseil d'Alsace Unique, qui a subi un échec, un référendum sur le Conseil d'Alsace Unique, j'ai milité, moi, en Alsace, je ne dis pas forcément ailleurs, j'ai milité en Alsace à la réduction de 3 niveaux de décision à 2 niveaux de décision. C'est-à-dire le local, le couple commune-communauté, à condition que ça corresponde au territoire vécu, et par principe de subsidiarité, le régional. Basta, ça suffit. J'étais conseiller général, j'ai milité pendant des années pour l'évaporation du conseiller général dont j'étais élu. Parce que j'ai considéré que c'était des doublons, c'est inacceptable, c'est la période napoléonienne, et quand je pense que Le Pen veut revenir sur le couple commune-département, c'est n'a rien comprendre, c'est juste l'inverse de ce qu'il faut faire. Encore que faut-il plaider pour des intercos de taille humaine, où la démocratie est prise en compte, où on ne prend pas les innovateurs de saillants pour des moins que rien. Et voilà, je suis groupant dans l'actualité.
Pour rebondir, parce que quand même, c'est vraiment intéressant cette question de l'articulation avec les autres communes à côté. Du coup, maintenant, il y a 20 ans d'expérience sur Kingersheim. Mais est-ce que, du coup, comment ont été les relations avec les communes voisines ? Est-ce qu'il y a eu de l'ostracisme au contraire de la coopération ? Et au-delà de ça, est-ce que la plus-value de ces modes de fonctionner a fait des petits, quoi ? Est-ce que d'autres communes... ça s'est fait à l'échelle de la communauté d'agglo, mais aussi peut-être porté par le fait que vous étiez président. Est-ce que ça se serait fait sans ça ? Est-ce qu'il y a d'autres communes qui s'y sont mis ? Et sinon, pourquoi ?
Alors, il y a de l'osmose par potentiel sur 3 ou 4 communes, notamment la commune de Jean-Claude Mensch, Angersheim, qui est une ville en transition, mm-hmm. a pris en compte la démarche participative mm-hmm. et créé des conseils participatifs. Donc là, mm-hmm. transition énergétique, écologique, transition mm-hmm. démocratique. Vous avez d'autres communes qui ont caissé un petit peu, mais qui n'ont pas compris le conseil, le notion de conseil participatif adapté à des projets. Mais ça avance. Par contre, la bonne nouvelle, et pour parler de communes et d'intercommunalité, il se trouve que les grandes communautés XXL sont souvent gouvernées par un cumulard, et donc le pouvoir est dédié non pas à des vice-présidents, mais souvent à l'administration et aux technocrates. C'est d'ailleurs la grande critique qu'on peut faire. Alors que l'intercommunalité peut être une belle révolution silencieuse sur le principe de subsidiarité, de faire ensemble ce qu'une commune seule ne peut pas faire, ça devient quelque part quelque chose qui paraît pour les habitants, quelque chose qui s'éloigne. Et donc toute la question démocratique reste posée. Et du coup, on a eu une crise, nous, dans l'agglomération mulhousienne, du fait de l'absence du président, du fait que l'administration décidait de tout, les élus étaient considérés comme des moins que rien. Et le président, à l'époque, était intelligent, mais qui ne voulait pas se remettre en cause, m'a demandé si je voulais travailler sur une nouvelle gouvernance. J'ai longtemps hésité, parce que je lui ai dit, au fond, Bockel, t'es président, c'est à toi de te remettre en cause. Travaille le sujet, arrête de voyager un peu partout, et travaille le sujet. Mais comme c'est un mec super intelligent, et qui s'est délégué des responsabilités, il m'a confié ça, je l'ai accepté au bout de quelques mois de consultation, avec trois autres. On a fait le tour des maires, d'abord. Ce qu'on a entendu est incroyable. Aucune confiance à l'échelon intercommunal. Et on n'a plus rien à dire, on ne vient plus. Les commissions n'étaient servaient à rien, c'est de l'information. Les gens ne venaient même plus, le quorum n'était plus atteint. Et on allait faire le rapport à Bockel. Franchement, à sa place, j'aurais démissionné sur le champ, parce que c'est un constat d'échec sur une interco complètement administrativo-technocratique. Après, j'ai dit, ben, ça ne suffit pas, on va mettre en place un schéma de gouvernance. Là, ça commençait déjà à hésiter. Et en fait, on a fait une révolution interne. Je suis arrivé en décembre avec des collègues, et il se trouve qu'un collègue, celui qui a lancé les journées citoyennes, avait envie d'y aller, maire du plus petit village de l'agglo. Je dis, il faut que tu ailles, je te soutiens, il faut qu'il fait le tour des maires. On réunit un consensus et on va voir le président Bockel. Il dit, écoute, le 9 janvier, puisqu'il y a une communauté de communes qui s'ajoutait, qui fusionnait, tu ne seras plus président. On a une autre équipe et un autre schéma de gouvernance. Ce schéma de gouvernance, je le résume, parce qu'il y a un changement de personne, surtout un changement de gouvernance, qui a complètement changé le rapport aux politiques et à la décision. Le bureau exécutif qui décidait tout seul, avec le président, les vice-présidents, et puis parfois les sous-vice-présidents, eh bien, le bureau exécutif devient pour nous, non pas en haut, mais il est en bas, il devient le comité d'impulsion. Il n'a pas vocation de décider à la place des gens, il a vocation de mettre en agenda les questions en jeu, les sujets de l'ordre du jour, de l'agglo, etc. Donc, comité d'impulsion qui réunit le président, les vice-présidents et élus communautaires délégués que je suis, parce que j'ai refusé d'être vice-président. Par contre, j'ai demandé l'équipe pour la transition énergétique et écologique. Donc, je suis heureux comme un pape. Donc, comité d'impulsion. Au-dessus, un bureau qui réunit tous les vice-présidents, tous les maires, tous les conseillers communautaires en bureau, et c'est la plaque pivot. C'est-à-dire que c'est là on fait le lien sur la validation des ateliers projets qu'on va mettre en œuvre, j'en parle dans quelques instants, où on décide sur les quelques délibérations qui sont classiques, qui ne nécessitent pas de débat politique, donc plaque pivot. Ensuite, une instance où enfin on retrouve le débat que j'appelle le forum. Le forum accueille tous les élus communautaires qui le veulent et tous les élus municipaux qui le souhaitent. Il s'est organisé en deux temps. Séance plénière pour permettre à tous d'être informés de ce qui avance, des projets qui avancent, des grandes délibérations plus politiques. Et après, retour dans les tables, ce que j'appelle les tables de discussion, où on approfondit un sujet, on reprend une délibération. Et comme le forum est organisé 15 jours avant le conseil d'agglo, il y a un impact réel, éventuellement, de modification de l'élu sur la délibération. Forum. Et ensuite, le conseil d'agglo décide. Et pendant ce temps, sur tous les projets, évidemment, je n'ai pas parlé des conseils participatifs, et je n'ai jamais parlé de démocratie, parce que si j'avais parlé de rénovation démocratique, dans une agglo où il y a quand même plutôt des conservateurs, je me serais fait rentrer dans le chou. Donc j'ai parlé de gouvernance, et à la place de conseil participatif, j'ai parlé d'atelier-projet. Vous parlez de groupe projet, je crois, atelier-projet, qui associe à peu près les ressources dont j'ai parlé, qui sont trop frilées sur les habitants, donc je ne vais pas aller plus loin, mais ils associent au moins les membres du conseil de développement. Si j'étais moi président, j'aurais imposé obligatoirement pour tous les grands projets, passage de la communauté d'agglomération au comité urbain, le passage du PLU en PLUI, j'aurais instauré franchement un collège d'habitants certainement tiré au sort à l'échelle de l'agglomération. Donc on a totalement changé le cours des choses et ça se passe très bien. Du coup, des gens qu'on n'entendait jamais parler, des mecs qui avaient un potentiel énorme, se sont révélés, des vice-présidents qui étaient étouffés, comme tous étaient étouffés, parce que c'est la dimension descendante, notabilaire, du cumulard, qui avait du charisme et qui fermait la gueule à tout le monde. Donc, Voilà, donc,
comment s'est quand même imposé ce nouveau schéma? Parce qu'il y avait quelques maires.
Parce que tous les maires ont participé derrière. Parce qu'on allait voir tous les maires.
Okay.
Et ils étaient. C'est même incroyable, parce que celui qui prétendait le président, il a bonne idée un jour, trois jours avant d'aller voir le président, de faire une photo de famille. Quand on est arrivé dans le bureau du président, j'ai dit, écoute, voilà, tous les maires sont partie prenante de changer de gouvernance. Bouquet, qui est vraiment pas dernier des cons, il m'a dit, le lendemain, j'ai mis 30 secondes à comprendre que tout était plié pour moi. Et comme il est super intelligent, au bout d'une minute, il a dit, écoutez, vous êtes pétri d'intérêt général, je vais vous soutenir. C'est extraordinaire. Alors que le maire de Mulhouse, qui devait prendre la relève, parce que c'était dans l'entre-soi politique, ça devait se passer entre Bouquet et Rottner, qui est un mec bien d'ailleurs. Ben lui, il a été humainement en colère, je peux le comprendre, politiquement il est tort, parce qu'il est monté au créneau pour la nouvelle agglo. Donc c'est... Voilà, mais au total, on a instauré, je pense, quelque chose d'important, et moi qui suis secrétaire général de l'Assemblée des communautés de France, qui depuis 3 ou 4 ans ne cesse de dire que les intercos ne vont pas être crédibles parce qu'on n'y met pas de la vie démocratique, eh bien, on est en train de travailler là-dessus, et on a aujourd'hui une expérience suffisante pour dire que, oui, une interco peut être vivante, peut être démocratique, à condition qu'on y mette les moyens.
La mienne, elle ne compte pas parce que c'est juste pour approfondir ce qu'on veut dire. Dans la loi, au niveau national, qu'est-ce qui est... Où sont les marges de manœuvre sur la gouvernance de l'interco, en fait?
Ben, quasiment libre. Il faut juste qu'il y ait un conseil d'agglomération qui se réunisse régulièrement. Il y a le bureau, mais on peut parfaitement être dans une démarche démocratique en respectant le cadrage. Ce qui est important, c'est l'inversion du rapport, c'est-à-dire le comité d'impulsion en bas pour lancer, et puis la dimension ascendante. Mais globalement, on n'a pas été embêté. On n'a pas été embêté. Pour le bureau, composition de bureau, on a dû y mettre les maires ou les conseillers communautaires délégués pour que ça puisse tenir dans le coup de la loi. En fait.
Ça peut durer longtemps,
du coup, ça. Ça fait combien de temps du coup, que ça fonctionne comme ça? Quel est le recul qu'on a sur cette
agglomération? C'est tout récent, c'est depuis quelques mois.
D'accord.
C'est depuis janvier.
D'accord.
C'est tout récent. Et il y a déjà presque 10 ateliers projets qui sont impulsés par le comité d'impulsion et qui vont fonctionner.
J'ai quand même l'impression qu'il faut aussi une forte personnalité pour quand même mener à bien ce genre de projet.
Il faut en tout cas de l'énergie, ouais.
Non, mais oui, faire le tour des mers.
Il faut de l'énergie, il faut... C'est... Après un conseil partout, une réunion publique, par exemple. J'étais athlète, j'étais 2-3 fois en équipe de France, je me prépare de la même façon. Avant une réunion publique, il faut être disponible, il faut être clair, il faut travailler sur les mots justes, il faut donner du sens, je disais dans la voiture à Sabine, une séquence démocratique est à moitié réussie si vous réussissez les 3 premières phases de la séquence. Si vous arrivez à comprendre de quoi il s'agit, en fait. Mais je me souviens, j'étais prof d'éducation physique, j'avais une démarche très active des élèves, j'ai toujours considéré qu'ils avaient un potentiel en eux, et la performance, je m'en foutais. C'est une différence, par exemple, son hauteur, c'est une différence entre ce qu'ils sautaient et leur taille, et la vitesse qu'ils pouvaient transmettre en dimension verticale, pour travailler les profs de maths, pour travailler sur les trucs, etc. Et j'ai toujours considéré que le discours était merveilleux. C'est des gens qui sont toujours portés par l'échec. On leur a dit, tu ne travailles pas bien, tu vas dans un lycée professionnel. Et un jour, ils ont découvert un prof qui leur disait, vous avez tous une capacité incroyable en vous. Ce n'est pas forcément d'être un bon dribbleur, mais considérer la balle comme un outil intelligent entre vous. Si vous faites de la balle un outil intelligent de dialogue entre vous, vous allez être des super. Et du coup, l'évaluation, c'est nombre de passes, rapport au nombre de tirs, rapport au nombre de buts. Les gamins, ils étaient super contents. Le mec, vous savez que c'est pas dribblé, il faisait la bonne passe, il était bon. Donc il y a des mecs qui se sont révélés comme excellents en EPS, alors qu'ils étaient considérés comme les derniers des trucs. Parce qu'on n'était pas sur les mêmes valeurs, critères de valeur. Et en plus, le discours, je peux le mesurer, donc, durant du faire de l'évaluation, le discours positif à dire à nos gamins, là, que vous êtes capable, que l'objectif à atteindre, il est là, et que si on n'y arrive pas, on prend le temps. C'est pour ça que moi, je plaiderais pour une réforme de l'école, où certains font le bac en 2 ans, d'autres en 3 ans, d'autres en 4 ans. La variable temps est fondamentale, la variable de maturation pour réussir. L'objectif, c'est de réussir, c'est pas d'être dans la compétition et de permettre à certains, par l'évaluation sommative, de louper automatiquement parce qu'ils n'ont pas le temps de la maturation. Donc c'est pareil pour la démocratie, en fait. Je crois, au fond, que la maturation permet aux gens de bonne volonté d'aboutir sur des compromis.
Bonne parole de fin. Pour aller désactiver, il y a un petit peu de...
Bon, dans le pot de l'amitié, je vais vous écouter, hein, je parle.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Chacun peut contribuer à mettre une chaise le long du mur.
Elles sont ensemble, il n'y a pas de place particulière.